Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Je connais son musique.
Revoir Paris, retour à Paris, Paris de Mozart à Philippe Hersant, en passant par Cécile Chaminade et Gabriel Fauré. C'est le nouveau disque d'Emmanuel Pahut avec l'orchestre de chambre de Paris, dirigé par François Leleux. Mais Paris, c'était aussi l'étape de l'orchestre philharmonique de Berlin qui n'y avait pas joué depuis le début de la crise sanitaire. C'était hier et samedi, et toujours avec Emmanuel Pahut, son soliste, à première vue depuis bientôt 30 ans. Mais oui, bonjour Emmanuel Pahut.
Mais bonjour.
Bienvenue dans ce studio de France Musique et bienvenue à Paris. Vous n'étiez pas venu depuis combien de temps ?
Depuis avant la pandémie, parce que les voyages, même s'ils étaient possibles pour des motifs professionnels, c'est-à-dire pour les enregistrements par exemple, les retours étaient toujours un peu plus difficiles avec les restrictions sur l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il fallait toujours surveiller ce qui se passait entre-temps, pendant qu'on était parti, pour savoir si on pouvait rentrer.
Comment se sont déroulées ces retrouvailles de votre orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, avec le public français le week-end dernier, hier et samedi?
C'était électrisant. D'abord, le public parisien est chaleureux et capable de s'enthousiasmer comme peu de public sur cette planète. Mais en plus, les retrouvailles avec la Philharmonie de Berlin et notre nouveau chef, Kirill Petrenko, dans des programmes éblouissants, ça a été quelque chose vraiment qui a eu une étincelle tout de suite. Une entrée en matière avec Oberon de Weber, par exemple, qui était un bijou. En 7 minutes, tout était dit et c'était quelque chose qui s'est prolongé encore pendant ces deux concerts. Et on a terminé par une rareté, Songe d'été de Souk, donc le gendre de Dvorak. C'est la première pièce qu'il a écrite après la mort de sa femme. C'est une sorte de renaissance musicale. Et c'est un voyage spirituel comme ça qui... C'est le genre de musique qui inspire énormément la fibre sensible et artistique de Kirill Petrenko, par exemple.
Qui est arrivé il y a 2-3 ans maintenant. Alors évidemment, il y a eu cette période qui fait que ça s'est pas passé comme c'était prévu, mais vous qui avez été dirigé pendant 10 ans par Claudio Bado, puis 16 ans par Simon Rattle, qu'est-ce qu'il apporte, Kirill Petrenko, à l'orchestre depuis qu'il a pris la direction de la formation ?
J'aimerais dire qu'il est déjà trop tôt pour le savoir, mais en fait c'est pas vrai. On a continué, mis à part 2-3 mois de choc au début, en mars 2000, on a recommencé à jouer grâce à notre digital concert hall, grâce à nos caméras. On a pu continuer à jouer pour notre public qui regardait depuis chez eux, pour les étudiants dans le monde entier, et on a vraiment été très chanceux de pouvoir continuer à jouer et fonctionner en tant qu'orchestre. Et au contraire, même malgré les distances qu'il y avait au début, qui étaient impressionnantes, puis après avec des tests on a réussi à se rapprocher, on a développé des liens d'écoute, une qualité d'écoute incroyable. Et je crois que c'est quelque chose qui est dans un peu la signature de Petrenko dans le travail. C'est-à-dire déjà Bado allait dans cette direction, puis après avec Rattle, forcément c'était une réaction au chef précédent, et là maintenant avec le choix Petrenko, c'est forcément une réaction aussi aux années Rattle, et c'est peut-être même la première élection qui est vraiment indépendante du monde, du système, de l'industrie de la musique, puisqu'elle est indépendante des labels discographiques, des relais de télévision ou médiatique, comme ça pouvait être le cas à l'époque Ariane par exemple, ou là au contraire, on était vraiment partie prenante de ce monde-là. Ça a changé et donc Petrenko peut vraiment faire un travail qui est complètement libre artistiquement dans le choix des programmes. On a tout à faire avec lui. Sa discographie se limitait à 2-3 disques pas beaucoup distribués avant, mais c'était une rencontre avec beaucoup de bonheur sur 3 programmes différents, ce qui a mené assez naturellement à son élection. Et le travail, je crois que place vraiment la musique et l'intensité, cette sorte d'hologramme musical au moment du concert, finalement au cœur de notre travail, et grâce aux outils, à la technologie également qu'on a aujourd'hui, on peut vraiment se concentrer sur ce travail-là.
En étant le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, c'est un des plus grands chefs de la planète, et en même temps, quand on le voit sur scène, moi je l'ai vu hier, il y a un côté pas star.
Non, effectivement, Kirill Petrenko n'est pas une star dans le sens qu'il n'a pas d'allure, de prétention. Il vit son truc, il est ange ou démon selon si la musique le demande. Il trouve des ressources internes qui sont le fruit de son imagination. Il essaie de trouver la clé du compositeur et de faire rentrer tout l'orchestre, mais également tout son public dans cet univers fantastique.
C'est quoi, Emmanuel Pahut, les prochaines étapes de cette tournée traditionnelle d'ouverture de saison de l'Orchestre Philharmonique de Berlin?
Alors en fait, elle a commencé la semaine dernière avec l'ouverture de la saison à Berlin, le dernier vendredi d'août. Et dans la foulée, on a enchaîné un autre concert en plein air à Berlin pour dire merci à notre public qui attendait si longtemps de pouvoir nous retrouver à la Waldbühne, justement. Et ensuite, c'était Salzbourg, Lucerne et Paris, avec une paire de programmes à chaque fois, l'un autour de la Grande de Schubert et l'autre autour de cette pièce de Songe d'été de Souk. Voilà, et donc Paris, la dernière étape, et maintenant, voilà, retour à Berlin. Si je suis avec vous ce matin, c'est que je ne suis pas rentré à Berlin. Je reste encore à Paris un jour, et puis ensuite j'irai reprendre des tournées qui m'amèneront en Norvège, en Suisse, en Italie, puis on verra combien de temps et comment tout ça va se passer.
Bien, merci d'être resté à Paris pour nous ce matin. Ce concert d'ouverture dont vous parliez d'ailleurs, enregistré à Berlin fin août, il sera diffusé sur France Musique le 18 octobre avec la Grande Symphonie, la 9e de Schubert. Et vous voici à Paris avec Francis Poulenc. Francis Poulenc, le final de sa sonate pour flûte et piano, arrangé pour flûte et orchestre par Lennox Berkeley, avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par François Leleu, et à la flûte, notre invité, Emmanuel Pahu, extrait de ce nouveau disque Mozart and Flute in Paris, qui vient de paraître chez Warner Classics. Une étonnante version de cette sonate de Poulenc orchestrée. Vous la jouez souvent, Emmanuel Pahu?
De temps en temps, c'est une œuvre que j'avais faite dans cette version pour la première fois, justement ici à Paris, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et en fait, j'ai découvert ça quand j'étais adolescent. Je travaillais la pièce en flûte et piano, et James Galway avait sorti un enregistrement à ce moment-là qui m'avait marqué, qui m'avait fait rêver. C'était justement ce monde des couleurs, cet arrangement de Lennox Berkeley qui apporte une saveur incroyable, justement du piment, du sel, du poivre, et qui finalement augmente encore un petit peu les sensations, je dirais, dans cette pièce. Alors bien sûr, ça prend un autre format pour moi en tant que soliste. Il faut jouer un peu autrement quand c'est avec orchestre que quand c'est avec piano. Mais c'est un bonheur, je dois dire, aussi avec les couleurs chatoyantes et la qualité d'écoute au sein de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et puis avec un compère, un complice, la baguette, comme François Leleu. C'était vraiment beaucoup de bonheur d'enregistrer cet album.
Cet album qui, je le disais tout à l'heure, va de Mozart, qu'on va écouter dans un instant, à Philippe Hersant, mais il y a aussi des pièces moins connues, des pièces de concours, Cécile Chaminade, Gabriel Fauré, Saint-Saëns, il y en a qui sont plus ou moins célèbres. C'est quoi l'unité de ce... C'est Paris, bien sûr, mais comment vous l'avez imaginé, comment vous avez tissé le programme de ce disque?
Paris, c'est une ville qui a quand même... nourrit l'inspiration de tellement d'artistes. Moi-même, quand je suis arrivé à 17 ans à Paris pour étudier, et je suis reparti 3 ans plus tard transformé par tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu ici. Et je crois que c'est quelque chose qui s'est produit pour chacun de ces compositeurs, pour énormément d'écrivains, d'artistes, de peintres, de sculpteurs. On le voit bien, la richesse culturelle incroyable de cette ville à travers les époques, les histoires. Et donc, les œuvres de Camille Saint-Saëns, la lumière, la texture, la richesse qu'il y a là-dedans, même Cécile Chaminade et Gabriel Fauré, ces petites pièces de concours aussi sont inspirées, elles ont une élégance incroyable, un phrasé qui est à la fois un challenge pour le souffle du flûtiste, mais en même temps une musique d'une générosité, d'une ampleur incroyable. Et pareil pour Mozart ou pour Philippe Hersant, ce sont des pièces qui ont été vraiment créées par des rencontres fortuites qui se sont passées, produites ici à Paris justement. C'est comme ça que Mozart a découvert la forme de la symphonie concertante à plusieurs instruments et orchestres, quelque chose qui n'existait pas depuis les concertos bande bourgeois, qui était quand même une œuvre assez exceptionnelle dans sa production, dans la littérature de l'époque. Finalement, on n'avait pas de musique instrumentale à plusieurs comme ça, et c'est vraiment quelque chose qu'on trouve après le goût de Mozart dans le flûte et harpe par exemple, qui utilise un tout autre langage adapté à la harpe diatonique de l'époque, et même dans sa symphonie concertante également, une forme qu'il a ramenée ensuite à Mannheim puis à Salzbourg, et dont Danzy et d'autres compositeurs, d'autres générations de compositeurs outre-Rhin se sont inspirés ensuite. Voilà, ce sont des choses qui sont nées à Paris.
Retour à Paris, retour à Mozart aussi. On va écouter dans un instant le début du deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe. C'est la deuxième fois que vous l'enregistrez. C'est un des tubes du répertoire de la flûte.
C'est vrai, j'allais dire, c'est seulement la deuxième fois que je l'enregistre. Il faut dire que la première fois, j'avais la chance que ça soit directement avec Claudio Abbado, Philharmonique de Berlin, et Marie-Pierre Langlemet, qui est toujours notre harpe solo également à l'orchestre. Là maintenant, avec Anne Lennartz, formidable jeune harpiste belge et soliste au Philharmonique de Vienne. C'était l'occasion de revoir cette œuvre dans un autre format, parce que quand on passe de l'orchestre symphonique à l'orchestre de chambre, justement, on a une autre qualité d'initiative, d'écoute, de complicité entre les différents instrumentistes. Et je dois dire qu'en plus, comme on s'est retrouvé pendant la pandémie, en période de confinement, pour travailler justement sur ce projet, ça a été vraiment un bonheur intense de faire de la musique, de se retrouver avec d'autres êtres humains et de faire de la musique ensemble.
Et vous, vous avez changé en 25 ans, votre interprétation de Mozart a changé, vous pensez?
J'espère bien, en tout cas je reconnais plus celui que je vois dans le miroir tous les matins, mais la lecture de Mozart effectivement a évolué. C'est pas une révolution qui veut dire simplement qu'on fait un tour sur soi-même et qu'on est à nouveau au point de départ après, c'est plutôt une évolution qui n'est, j'espère, pas encore achevée, mais l'expérience qu'on acquiert, entre temps j'ai augmenté mon répertoire d'environ 200, 300, 400 pièces. Je sais pas, c'est difficile à garder la vue d'ensemble, mais le travail avec les compositeurs aussi entre temps m'inspire beaucoup. Les compositeurs d'aujourd'hui me permettent de comprendre mieux la musique d'autrefois.
Mozart, le début du deuxième mouvement du concerto pour flûte, traversière et harpe, Emmanuel Pahu, Anne Lennartz, l'orchestre de chambre de Paris dirigé par François Leleu, un disque paru chez Warner Classics. Emmanuel Pahu est notre invité ce matin. On a réussi à l'attraper. Ça fait longtemps qu'on essaie de vous attraper. Vous voilà, parce que l'Orchestre Philharmonique de Berlin est passé par Paris le week-end dernier. Ici, c'est François Leleu, grand oboïste et chef qui dirige l'orchestre. Je me disais, à force de voir face à vous de grands chefs, vous n'avez pas la tentation, vous, parfois, de prendre la baguette comme vos amis François Leleu ou Paul Meyer?
Ah, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui font ça bien, et j'ai énormément de plaisir à échanger avec les grands chefs de notre temps, et de voir la musique d'un autre angle, d'un autre format que simplement la partie de flûte. Ça m'a toujours intéressé, mais je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça très bien. Je pense pas que je pourrais du jour au lendemain faire ça comme ça. Alors bien sûr, pendant cette période de pandémie, étant plus géographiquement basé à Berlin, j'ai commencé à faire du coaching dans centre de jeunes, des choses comme ça, et effectivement des fois on se surprend soi-même à diriger, à inspirer, à essayer de former la musique avec des gestes ou des expressions, des mimiques. Ça va plus vite que d'interrompre en permanence et de corriger, puis ça permet de suggérer des choses plutôt que de corriger les choses. Mais après, c'est tout un autre travail. Je pense qu'il faut vraiment mettre de côté sa carrière d'instrumentiste pendant un moment. Il faut avoir une motivation, etc. À une autre dynamique. Voilà, tant que je suis flûte solo du Philharmonique de Berlin, c'est quelque chose qui me nourrit avec beaucoup de bonheur, et que je suis soliste en même temps, ça fait déjà énormément de choses à faire. Je vois pas comment je pourrais m'y mettre. Après, on verra, peut-être une deuxième jeunesse, 60 ans passés, on verra. On en reparlera peut-être dans une dizaine d'années.
Vous êtes arrivé à 22 ans à la Philharmonie de Berlin, dans cet orchestre. Vous êtes toujours flûte solo. Vous n'avez jamais été lassé. Vous aviez pris une année sabbatique l'année dernière. Alors évidemment, elle a été interrompue par la crise sanitaire. Mais est-ce que c'était le signe que vous vouliez prendre un petit peu de recul?
Oui, en fait, l'année sabbatique était prévue en 2020 pour moi. Et qui, finalement, par la force des choses, a été vraiment sabbatique pour le monde entier. C'était par rapport au solo, pas par rapport à l'orchestre. Au contraire, c'était pour me recentrer un petit peu justement sur les débuts avec Kirill Petrenko, d'essayer de découvrir cet univers, puisque je n'avais jamais joué avec lui avant ses débuts chez nous. Et voilà.
Ah ouais, donc bon, finalement... les autres beaucoup de gens feraient l'inverse, en fait.
Oui, oui, c'était le moment d'essayer de tenter un petit peu autre chose, de faire un peu le ménage, et je dois dire que la décélération que nous avons vécue, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, par le fait de faire de la musique à la Philharmonie, d'abord à 3, puis à 4, puis à 5, puis après à nouveau un ensemble, puis ensuite un orchestre avec un chef, comme c'est ce qu'on a fait à partir du mois d'avril 2020. Ça a été quelque chose qui était une sorte de un petit peu de cleansing, comme on dit, une sorte de nettoyage musical, et qui m'a permis de retravailler mon instrument, comme quand j'étais étudiant également, de prendre le temps de tout seul avec l'instrument de revoir un petit peu mes classiques, et je me sens plus inspiré aujourd'hui qu'avant.
Vous n'êtes pas que flûte solo, alors qu'à Philharmonique de Berlin, vous êtes aussi responsable média avec cette plateforme dont on a beaucoup entendu parler depuis les débuts de la pandémie, même si elle existait avant. C'est Digital Concert Hall, c'est une révolution pour l'orchestre.
Oui, alors l'orchestre choisit quelques représentants, les uns qui dirigent les affaires intérieures et les autres qui dirigent les affaires extérieures. J'ai fait ça effectivement pendant quelques années. À l'époque, on a lancé la plateforme du Digital Concert Hall, c'était l'époque de la DSL, de la fibre.
Ça remonte.
On commençait à voir le... Oui, mais c'était vraiment à ce moment-là qu'on a lancé notre produit, parce que la bande passante était suffisante chez le client, chez le consommateur, au domicile finalement, pour pouvoir regarder des concerts à l'époque, pas encore en haute définition. Et maintenant, le produit a bien sûr bien évolué. Je me suis distancé des affaires entre-temps, mais c'est une idée qu'on avait donc avec mon autre collègue à l'époque, Olaf Manninger, qui dirige toujours, lui, c'est le Digital Concert Hall, et c'est vraiment quelque chose qui nous a permis, par exemple, d'être chez les gens dans le monde entier, un rendez-vous hebdomadaire comme ça, et les gens le vivent à leur façon finalement. Et on a déjà joué dans leur salon. Alors on s'est retrouvé parfois aller en tournée dans un pays, que ça soit en soliste, en musique de chambre ou en orchestre, et les gens nous accueillaient en disant mais je vous connais déjà. C'est quelque chose qui était nouveau.
Comme et ça a créé un modèle.
Et ça, je pense que ça a créé un modèle puisque maintenant on voit bien qu'il y a du streaming partout.
On écoutait Mozart il y a un instant. D'ailleurs, vous avez choisi des cadences de Nino Rota pour ce concerto pour flûte et harpe. Je voudrais qu'on se quitte avec Nino Rota. C'est un disque de musique de chambre paru chez Alpha Classics cet été également. Un disque peut en cacher un autre avec vos amis Paul Meyer, François Meyer, Aurélien Pascal, Gilbert Rodin, Éric Lesage, bien sûr. Et d'autres, un disque salué unanimement qui a eu plein de prix. C'est une découverte du festival de Salon de Provence, votre festival de copains.
Voilà, c'est un bébé du festival, un bébé de Salon de Provence. On en a déjà eu quelques autres. Par exemple, quand j'avais enregistré les Quatuors de Mozart, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'était également un bébé qui était né à Salon. C'est notre laboratoire musical.
C'est une découverte aussi musicale pour beaucoup de gens, cette musique.
Voilà, c'est vraiment un parcours musical très intéressant. On a redécouvert énormément de littérature de Nino Rota, formidable compositeur.
Vous serez Emmanuel Pahut avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par François Leleu le 29 mars prochain, au printemps. Et puis le 10 mai avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pinscher, puisque la musique contemporaine continue à être si importante pour vous. Une commande par an toujours.
Même plus que ça, l'année dernière, en pleine pandémie, avec Daniel Barenboim, à la salle Boulez à Berlin, on a réuni 13 compositeurs qui ont été inspirés par cette situation très spéciale dans laquelle on a vécu à ce moment-là, et qui nous guide un petit peu finalement. Pour moi, le compositeur, c'est le génie qui nous guide vers le futur.
Emmanuel Pahut était au micro de France Musique ce matin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Une belle journée à vous.
Nino Rota, le troisième mouvement de son Nonetto pour quintette à vent, violon, alto, violoncelle et contrebasse, avec entre autres entre autres Emmanuel Pahut qui était notre invité ce matin et Daishin Kashimoto au violon, des amis de Salon de Provence et des amis du Philharmonique de Berlin. Vous retrouverez tous leurs noms sur notre site. Merci beaucoup Emmanuel Pahut et à bientôt à Paris et en France.
À très bientôt, j'espère.
Demain, notre invité sera un grand chef qui vous a sans doute déjà dirigé. Semyon Bichkov sera à votre place à la technique ce matin. Il y avait Emmanuel Borsdinkan et Swat Boukorsa à la production, Marion Guillemet, Florian Sternadel, Flora Sternadel et Pierre Matignon à la réalisation, Yacine Bouzard.